d'un ami de la station, et en fait deux amis de la station, on va pouvoir dire. Alors, Olivier Robin et Louis Dermagne, vous êtes tous les deux professeurs titulaires à l'Université de Sherbrooke. Et aujourd'hui, ou peut-être je me suis trompé, attendez, pourquoi Olivier Turi, là? Vas-y.
Parce que je suis professeur. Ouais,
ouais, non, pas non, toi, t'es doctorant. Louis, t'es doctorant. Okay.
Et adjoint.
Mais bientôt. Qui sait? Et aujourd'hui, on va parler de votre texte gagnant du concours de vulgarisation scientifique, un bon son pour une alarme. En fait, tout ça en but là, pour nos auditeurs, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure en ouverture d'émission, mais vous savez le bruit agressant qu'on entend quand un camion recule, hein, ce fameux bip, 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 bip. Et là, vous allez découvrir quelque chose qu'on pourrait le changer pour le rendre moins agressant. Olivier Robin, est-ce que tu veux nous expliquer un peu ça pour nos éditeurs à la maison entre deux gorgées de café?
Ça me fera plaisir, Eric. Alors déjà, je veux juste dire qu'on n'a pas découvert.
Non, c'est pardonne-moi, c'est
on
vrai.
A mis en évidence quelque chose. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est des alarmes ultra-directionnelles. Peu importe que le son soit bip, 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 ou ce que tu veux,
oui.
On voulait que ce soit focusé, que ce soit dirigé en arrière d'un véhicule. Et comme il en existe deux, une qui fait bip, 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 et une autre assez nouvelle qui fait pour savoir si nous, on était meilleurs avec nos prototypes, fallait qu'on compare les deux. Donc en fait, l'étude dont on parle là, c'est vraiment l'étude qui a comparé l'alarme tonale qui fait bip, bip, et l'alarme large bande qui fait pch, pch.
Est-ce que le psh, psh a déjà été utilisé dans le monde? Parce que tout à l'heure, j'écoutais justement de vos, en fait, je lisais justement de vos entrevues dans les grands médias, parce que vous êtes rendu des stars de l'Université de Sherbrooke. Et, me semble, le bruit me disait de quoi? C'était comme, oui, c'est l'ouverture d'une canette, on pourrait dire. Mais est-ce que ça a déjà été utilisé à d'autres endroits présentement dans le monde?
Alors. On en trouve, et puis il faut laisser du temps à Louis là.
Bah oui, bien sûr, bien sûr.
On en trouve à différents endroits. En fait, au BC, c'est assez généralisé.
Ok.
Ici, on en trouve. Moi, j'ai déjà entendu des déneigeurs au marché de la gare l'utiliser. Et je sais que la ville de Québec était déjà partie pour faire le saut pour aller vers ces alarmes-là et que l'article, justement, a été relayé pour que la ville appuie sur le fait qu'ils font le saut. Je crois qu'il faut les deux choses pour ça. C'est un, il faut le savoir. Deux, il faut que les pouvoirs publics ou une entreprise ou n'importe quoi, une structure disent on y va, on va de l'avant.
Parce généraliser que ça, puis le mettre comme étant comme défaut.
Ouais, puis on va pas se mentir, ça a un coût.
Ben oui,
ça
bien
coûte,
sûr.
Elle coûte plus cher, c'est une nouvelle technologie. Qui dit nouvelle technologie, dit plus cher. Et puis, faut le connaître. C'est-à-dire que plus les gens sauront c'est quoi un pchit, pchit, ben plus ce sera pertinent de le mettre partout, ce truc-là.
Mais exactement. Alors, vous avez vu, en fait, vous avez décelé la grande performance empirique des alarmes à large bande, comme on le disait, le pish pish. En fait, ce sera un temps d'adaptation de combien de temps environ pour que la population puisse commencer à comprendre que c'est bien ce nouveau bruit-là, mettons, là, comme ça dans les airs, là.
Bon, ça va être difficile, je pense, parce que les alarmes bip, bip, bip ont mis, je sais pas, 60 ans. Ça fait 60 ans qu'elles sont là, déjà, dans nos vies. Donc, passer d'une habitude de 60 temps à une nouvelle habitude sur pchit pchit, je pense que ça va mettre quelques temps, mais ça va se faire progressivement, je pense.
Même encore aujourd'hui, quand on pense par exemple au bruit des voitures électriques, là, qu'on a mis un bruit sur certaines, je pense que c'est Nissan ou c'est Mitsubishi qui ont un bruit de vaisseau spatial, quand que ça roule, justement, c'est encore un bruit qu'on a de la misère à s'adapter, justement. Oui, Olivier?
Mais en fait, tant qu'à faire d'en parler.
Ben oui, parlons-en.
Ce qui est fascinant, et je crois que c'est pour ça, nous, qu'on aime bien l'acoustique, c'est qu'en fait, quand il y a trop de bruit, c'est pas bien, mais quand il y en a trop peu, c'est pas bien non plus. On a fait des voitures électriques, elles font pas de bruit, et là on s'est rendu compte que c'était devenu dangereux qu'elles fassent pas de bruit parce qu'en fait les piétons les entendaient pas arriver. Donc en fait c'est obligatoire hein, en passant, c'est pas Nissan ni Toyota ni n'importe qui, t'as pas le choix. En Amérique du Nord, Japon et je sais plus quel autre pays, c'est obligatoire d'avoir une alarme à basse vitesse pour que les gens puissent entendre venir le véhicule. Là pour le coup, elle est bonne ta question. Elle est bonne ta question pour savoir combien de temps ça va prendre. Je sais pas. Ce qui est rigolo, c'est que en fait ça fait 50 ans qu'on est dans une approche de plus fort, c'est mieux. Mmh. On est dans une approche, je vais pas dire, c'est pas brutal, mais c'est presque ça. Le paradigme, c'est si t'as du décibel, de toute façon, tu vas être au-dessus du bruit de fond, puis c'est ça qu'il faut. Point. Même si c'est dérangeant, même si.
Non, parce que l'important, c'est d'avertir les gens. Enfin, oui. On s'en fout un peu du nombre de décibels. Oui, l'important, c'est que les gens soient avertis.
Ouais, mais l'affaire, c'est que là, on sort d'une pandémie où déjà, on s'est rendu compte que la pollution sonore, elle avait drôlement grandi dans nos environnements urbains. Donc là, d'un coup, on a allumé, je pense, que c'était quelque chose. Et en plus, on est en train, quelques chercheurs, dont moi, j'espère creuser ça dans les années à venir, on est en train de se rendre compte qu'en fait, c'est pas exactement ça qui se passe dans le cerveau. A priori, c'est pas juste une affaire de niveau. Il y a quelque chose d'autre et donc ça va amener d'autres recherches. Mais je crois qu'encore une fois, le mieux, c'est en parler, expliquer, vulgariser. D'ailleurs, on pourrait revenir un peu à, si tu le permets, à l'origine de tout ça.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est de la faute de Louis, hein, si
bon,
on est là.
Alors, c'est ça, exactement. L'origine je veux pas dire le mot découverte, là, mais de cette envie d'aller percer ce sujet-là.
Alors, le sujet-là, bah, ça a commencé en janvier avec le concours de vulgarisation. J'ai toujours aimé ça, de vouloir vulgariser, diffuser, faire comprendre aux gens. Et je voulais sortir un peu de ma zone de confort parce que ce que fait Olivier n'est pas du tout dans mon domaine d'expertise. Et je suis arrivé avec un œil extérieur nouveau sur le sujet. Et puis, j'ai trouvé cette idée de match un peu entre l'alarme bip bip et l'alarme chip chip et essayer de justement faire ressortir les points très importants, les faire comprendre très simplement. Puis ça a commencé comme ça. Et puis, par ma faute, voilà où on en est aujourd'hui.
Bah oui, hein, parce que vous êtes actuellement, hein, gagnant du concours de vulgarisation scientifique 2021. Ça vient, Louis, ton envie de vouloir aller sur ce sujet-là, parce que t'étais chez toi au mois de janvier, puis là t'entendais cette bip bip là, tu disais là il faut vraiment changer ça.
Oh, Olivier m'en a parlé, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout que le bip bip, moi je l'entends quasiment tous les jours.
Bah oui, exactement, travaux, ça devient presque quelque chose qu'on est accoutumé.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est l'accoutumance. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir, de plonger là-dedans, de fouiller ce qui s'est trouvé dans cette mise en avant des différences de l'aspect directif de l'alarme tip sheet. Et j'ai trouvé ça vraiment amusant de trouver ces idées-là, de faire le dessin, comme tu l'as dit, la direction, j'ai aimé faire ça, surtout que c'était nouveau et que je ne connaissais pas du tout, et de, comme ça, avec un œil extérieur, d'avoir justement les points les plus importants.
Pensez-vous que le domaine scientifique à l'université, est-ce qu'on vulgarise assez? Parce que là, on en parlait hors micro, là, Olivier, tu avais l'air de me dire que votre article de vulgarisation a vraiment eu l'effet d'une traînée de poudre. Vous avez des articles maintenant qui sont à Québec, vous avez fait les grands médias, tout ça. Est-ce que c'est un mal, en fait? Est-ce que c'est pas un mal, pardonnez-moi? Est-ce que c'est quelque chose qui, est-ce que c'est un manque actuellement, la vulgarisation scientifique et la découverte, l'explication de sujets complexes comme ça, mais d'une façon quand même assez simple. On voit dans l'article, il y a même une BD que tu as réalisée avec ta conjointe, Olivier. Est-ce qu'il y a une avenue aussi pour ça? Est-ce que vous avez découvert que finalement, la population est apte à comprendre toutes ces données-là et que finalement, peut-être les médias, ils évitent d'en donner de la place à la vulgarisation scientifique parce que c'est trop compliqué?
Maudite bonne question.
Le matin, des fois, ça m'arrive.
Maudite bonne question. Moi, je pense que la population, elle aime ça. Regarde, moi, j'écoute les années-lumière tous les dimanches. Oui. Peut-être la différence, c'est que les années-lumière, c'est une équipe de journalistes, et dont je ne nie pas la qualité, hein, bien au contraire. Hein. Mais souvent, c'est des journalistes qui cherchent des sujets, qui ensuite vont contacter des spécialistes pour répondre aux questions sur le sujet. Là, c'est un peu différent. C'est quand même les spécialistes ou les chercheurs, les chercheuses, les doctorants, les doctorantes qui font le travail, parce que c'est un travail, je pense, c'est pas simple. C'est pas facile du tout, hein. Faut le dire, hein. Louis, on avait compté le nombre d'heures qu'on a passé là-dessus.
Oh oui.
Sincèrement, pour faire un texte de 600 mots, c'est, je pense, quasiment autant de job que d'écrire un article scientifique.
C'est la synthèse qui est le plus dur. Là.
C'est la synthèse, c'est les mots, c'est la tournure, que ce soit le fun, tout, c'est pas facile du tout. Je pense que là, on est à un bon moment, ça pousse à l'université, je crois, pour aller... il y a un cours de communication scientifique par la BD que Louis a suivi, que je donne avec Benoît Leblanc, de la faculté des sciences. Je pense qu'on est à un bon moment que aussi les scientifiques, là, ils aient pas juste... comment dire ça? Je voudrais pas prendre une image d'arme parce que c'est pas bon. Plusieurs cartes dans leur jeu, on va dire ça comme ça. Tu sais, savoir écrire un article scientifique, c'est une chose, mais je pense que là, on a vraiment besoin de gens qui sont capables aussi d'écrire la science de manière un peu plus générale, de parler à n'importe qui. C'est super important, surtout que là, après la Covid, on l'a vraiment vu là. N'importe qui peut s'improviser spécialiste.
Oui.
Puis donner son avis sur quelque chose, et quand ça part comme une traînée de poudre, le problème c'est que des fois c'est bien, mais d'autres fois c'est pas bien.
Mais non, parce que par la suite vous devez contrôler le message et vous devez être là pour l'expliquer, ce message-là. Ça ne veut pas être n'importe qui, comme moi qui n'arrive pas à dire découverte depuis tantôt, quand finalement c'est juste une recherche. Vous l'avez, c'est quelque chose qui existait déjà, mais c'est pas une découverte, c'est pas quelque chose qui est apparu derrière, non.
Non, on l'a juste fait savoir, mais je pense, je sais pas, Louis, dis-moi, mais c'est peut-être aussi une question de génération, parce que là tu sais, je suis vieux, moi, enfin moi je me classe dans les vieux maintenant. 43 ans, mais j'ai l'impression que la génération, la tienne, Louis,
Curieuse.
Et ouais. Je pense est beaucoup plus allumé là-dessus via les médias sociaux. Enfin, me semble que vous avez quelque chose qui bah, bouge plus dans votre génération.
On a tous les outils de diffusion des réseaux sociaux qui sont là juste pour mettre des, comment dire, des messages très express et donc des synthèses très 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 pointues ou très directes sur le message qu'on veut faire passer. Et donc ça va très très vite. L'information va très très vite et donc les jeunes, oui, vont aller chercher l'information très rapidement. Après, on a le risque de vérifier les sources, c'est ce qu'il faut aller approfondir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire le travail en amont, comme l'a dit Olivier, les scientifiques, de synthétiser au plus, au mieux, au plus proche de ce qui a été fait. Puis voilà, oui, non, les jeunes, je pense que oui, ils seront toujours très curieux d'aller voir ça.
Ben oui, parce que je pense qu'à l'ouvert, quand les réseaux sociaux ont commencé à devenir assez populaires, là, on touche un peu à mon sujet sur les nouvelles technologies, tout ça. mais c'est que justement, il y a une prolifération des pages genre j'aime beaucoup la science et toutes des choses comme ça, où ce que là, on se partage des micro clips de science et les gens sont super impressionnants. Alors c'est peut-être ça justement, c'est une addition de tout ça, que les gens sont plus ouverts sur les découvertes scientifiques et même juste à comprendre la science avec un grand S.
Ouais, et puis on la reprend peut-être aussi.
Oui, ça c'est vrai.
Je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'on sort d'une époque où avant c'était un peu, désolé, on va tomber dans le cliché, mais le scientifique, le gars avec les cheveux blancs, la barbe, la blouse blanche, puis c'est la personne omnisciente qui sait tout. J'ai l'impression qu'on est en train de glisser, on sort un peu, heureusement, de ça. Et parce que la science, c'est pas juste les scientifiques, là. Je veux dire, il faut qu'il y ait des ponts qui se fassent entre le grand public, entre les scientifiques. Et de plus en plus, on fait de la science participative. Et c'est trippant, et ça donne des sacrés bons résultats. Quand t'impliques les gens dans la science, là, c'est souvent très waouh.
Alors, Olivier Robin, professeur depuis tout nouveau professeur depuis septembre 2021. T'as également été professionnel à la recherche depuis près de 6 ans. Vous travaillez en les deux, en fait, Louis Dermang, tu es doctorant au Centre de recherche acoustique signal humain de l'Université de Sherbrooke. Je vous remercie pour votre temps ce matin. Je vous remercie d'avoir nous avoir parlé de votre démarche aussi derrière tout ça. Puis j'invite la population étudiante à aller voir cet article sur le site de l'Université de Sherbrooke sur un bon son pour une alarme. Alors, je vous invite à aller le lire, sinon il y a Le Devoir qui leur prie, le soleil qui leur prie et la tribune qui leur prie. Bref, allez lire ça, c'est vachement intéressant.